Les nouveaux corsaires de Philippe Vasset et Pierre Gatineau. Prise de son Fabien Gosset. Réalisation Rafik Zénine.
Au XVIIe siècle, les corsaires couraient les mers pour leur compte et pillaient des navires pour leur roi. Quatre siècles plus tard, leurs lointains héritiers sont partout. Sur les champs de bataille où ils sont aux avant-postes des combats, dans les airs où ils assurent la surveillance des côtes, dans l'espace où ils espionnent, et même dans le cyberespace où ils piratent. La concession des fonctions les plus régaliennes de l'État à des opérateurs privés sera la tendance lourde du siècle qui vient. Et sans attendre, notre série Les Nouveaux Corsaires vous propose d'aller à la rencontre de tous les entrepreneurs en souveraineté auxquels les États sous-traitent d'ores et déjà leurs missions les plus sensibles.
Aujourd'hui, l'aide à la création de pays avec Kéan Ross, l'ambassadeur des capitales qui n'existent pas encore. Après la vague d'indépendance qui a suivi la chute du mur de Berlin, on assiste depuis quelques années à un second mouvement de création de pays. Le Soudan du Sud est le dernier à avoir rejoint, en 2011, l'Organisation des Nations Unies, mais une bonne demi-douzaine de pays virtuels patientent à la porte. Parmi eux, le Somaliland et le Puntland, deux régions somaliennes qui veulent s'inventer un destin loin de la guerre qui déchire Mogadiscio, mais aussi le Kurdistan, qui veut suivre une route différente de l'Irak, le Sahara occidental, la République de Chypre du Nord, etc. Et ce, sans compter l'Europe, qui doit faire face aux velléités d'indépendance des Catalans, des Écossais et des Kosovars.
Cette seconde vague d'indépendance a suscité des vocations chez les diplomates privés qui sont allés proposer à ces nations en devenir un appareil diplomatique clé en main. La plus active de ces ambassades allouées s'appelle Independent Diplomat. C'est un mélange hybride entre cabinets de lobbying, sociétés de conseil, fondations et ONG.
Son fondateur s'appelle Kéan Ross. Ancien diplomate britannique, il a quitté le Foreign Office par opposition à la guerre en Irak au début des années 2000 et est parti créer ce qui est devenu en 15 ans le premier réseau diplomatique privé. Nous l'avons rencontré à Londres, où, lors d'une froide matinée d'hiver, il nous a expliqué comment il représente des proto-États en quête d'indépendance et les aide à obtenir des soutiens internationaux.
I was a British diplomat from 1989 to 2004, where I did a variety.
J'ai été diplomate britannique de 1999 à 2004. J'ai commencé par un job d'employé de bureau très ennuyeux sur le Benelux, dans le département sur l'Europe de l'Ouest, pour finir rédacteur de discours de deux ministres des Affaires étrangères, qui étaient nettement plus intéressants. J'ai entre-temps occupé un certain nombre d'autres postes. J'ai notamment dirigé la section du Foreign Office consacrée au processus de paix au Proche-Orient. Nous l'appelons processus de paix, mais plus personne ne s'en préoccupe aujourd'hui.
Un événement qu'il présente comme fondateur va alors s'imposer à lui.
J'ai quitté le gouvernement britannique parce que celui-ci a menti sur la guerre en Irak. J'avais été responsable de l'Irak au Conseil de sécurité de l'ONU. J'avais été le chargé de liaison entre le gouvernement britannique et les inspecteurs en charge du contrôle des armes irakiennes. J'avais, disons, une connaissance très fine du renseignement dont nous disposions sur l'Irak, sur les armes de destruction massive. Et dans la course à la guerre, j'ai vite réalisé que mon gouvernement était en train de gonfler le dossier irakien pour aller à la guerre et qu'il prétendait avoir des raisons légales pour intervenir, ce qu'il n'avait pas, et ils ont ignoré toutes les solutions alternatives à la guerre. Donc j'ai pris sur moi de réfléchir à cette politique. Donc pour toutes ces raisons, je ne pouvais pas soutenir cette guerre et finalement, j'ai donné une chance de mettre mes vues officiellement sur la table quand il y a eu une enquête parlementaire sur l'utilisation du renseignement en amont de la guerre, appelée l'enquête Butler, dès février 2004. Quand elle a débuté, j'ai mis sur papier tout ce que je pensais et l'ai envoyé en secret à la commission parlementaire, car j'étais toujours un diplomate. Mais j'ai réalisé en l'envoyant que je ne pouvais pas rester en conscience diplomate. Donc j'ai envoyé aussi mon témoignage au ministre des Affaires étrangères comme une lettre de démission.
Comme tous les mythes fondateurs, celui-ci a sa part d'ombre. Certains des anciens collègues de Ken Ross au sein du Foreign Office racontent volontiers qu'il a en réalité démissionné parce qu'il n'avait pas eu la promotion escomptée. Il faut dire que depuis qu'il a repris sa liberté, l'ancien diplomate ne rate jamais une occasion de flétrir le travail de son ancienne administration.
Voulu ou subi, cette rupture oblige Ken Ross à se réinventer et à créer un nouveau business.
Je ne voulais pas vraiment quitter le Foreign Office. Je pense que je voulais probablement rester un diplomate britannique le reste de ma carrière. Mais à cause de ce qui est arrivé en 2003, je suis parti. J'ai alors dû réfléchir à une carrière alternative. Je vivais au Kosovo à ce moment-là. Je travaillais pour le compte de l'ONU, ce qui était commun pour les diplomates britanniques. Et quand j'ai dû quitter le gouvernement, j'ai dû trouver un nouvel emploi. Je suis alors devenu conseiller diplomatique du gouvernement kosovar. J'ai offert mes services au premier ministre du pays. Et ce fut le point de départ d'Independent Diplomat. J'ai conseillé le gouvernement du Kosovo pendant plusieurs années, pendant le processus d'accession à l'indépendance, qui est finalement advenu. Cette mission est l'archétype de ce qu'Independent Diplomat est devenu, un groupe de conseil pour les gouvernements ou les groupes politiques qui manquent d'expertise et d'expérience diplomatique.
Pour le compte du petit pays balkanique, Ken Ross va mettre en branle tout son entregent diplomatico-mondain à Londres, Genève, New York. Surtout, il comprend que les dirigeants kosovars n'ont ni les codes, ni la technique de la diplomatie. On ne passe pas si facilement des maquis balkaniques au salon des organisations internationales. Les diplomates ont leurs usages, leurs mœurs et surtout leurs snobisson. Éduqué dans les meilleures écoles de Sa Majesté, Ken Ross connaît tous ces rites et réalise bientôt que les Kosovars ne sont pas les seuls à ne pas avoir ces compétences.
D'autres personnes sont venues à moi, en fait. J'ai eu à connaître un certain nombre de gens de par mon travail de diplomate, notamment dans les Balkans, évidemment, mais dans toutes les diplomaties. Les gens ont commencé à entendre parler de ce que nous faisions et plusieurs personnes m'ont alors dit qu'ils souhaitaient me rejoindre. C'était le point de départ de l'organisation, car le gouvernement du Kosovo n'était pas le seul, bien sûr, à avoir besoin d'expertise diplomatique. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres gouvernements et groupes diplomatiques qui ont des besoins légitimes, qui sont démocratiques, mais qui n'ont pas de compétences diplomatiques, de muscles diplomatiques, dont ils ont besoin pour avoir voix au chapitre sur la scène internationale. Donc le besoin d'avoir Independent Diplomat est très évident pour ces personnes. Je n'ai jamais eu de mal à convaincre des gens dans la diplomatie du pourquoi de l'existence d'Independent Diplomat. Ils voient bien que nous remplissons un service diplomatique nécessaire. Bien sûr, cela pourrait devenir une bien plus grosse organisation. Cela reste très petit et reste une œuvre de charité britannique, soutenue par des dons philanthropiques de la part de gouvernements bien intentionnés, ce qui nous laisse pour le moment assez petit.
Comme Jonathan Powell, sujet d'un autre épisode de notre série sur les nouveaux corsaires, Ken Ross use et abuse de cette catégorie toute britannique de la charity, à mi-chemin entre l'entreprise et l'ONG. Mais pressé sur le sujet, lui-même peine à définir ce qu'est exactement Independent Diplomat.
C'est un peu une ONG, ce n'est pas en soi une société privée. On ne réalise pas de services contre rétribution en tant que tel, même si nous demandons dans la mesure du possible à tous nos clients de faire une contribution pour nos services. Il est clair pour nous qu'ils sont les clients, nous, le fournisseur.
Ce flou autorise la diversification des revenus.
En réalité, c'est un modèle un peu hybride. Nous prenons des honoraires de certains de nos clients, certains des plus riches pays qui peuvent se permettre de payer pour ce que nous faisons. Mais la plupart de nos clients n'ont pas d'argent. Certains sont même basés dans des camps de réfugiés. Nous aidons par exemple le Front Polisario dans le Sahara occidental depuis de longues années. Et ils sont basés dans un camp de réfugiés, donc ils n'ont pas les ressources pour nous payer les services que nous leur prodiguons. Quand j'ai commencé Independent Diplomate, je voulais au départ le fonder en tant que société privée. Mais j'ai réalisé que si je faisais ça, nous aurions fini par courir après les dollars, à rechercher des clients riches, comme Dubaï ou d'autres pays riches de ce monde, ce qui était précisément ce que je ne voulais pas. Je voulais aider ceux qui avaient le plus besoin d'assistance pour ne pas se faire avoir, dans un sens ou dans l'autre. Je voulais aider les plus vulnérables, les plus fragilisés, ceux en guerre, mais qui voulaient la démocratie. Je voulais les représenter, car ils ont le droit d'être entendus dans le jeu diplomatique. In the discourse of diplomacy.
Après le Kosovo, le second client décroché par Independent Diplomate illustre à merveille cette profession de foi.
Le second client a été le Front Polisario, parce que je les connaissais du temps où j'étais en poste au Conseil de sécurité, où je travaillais beaucoup sur le Moyen-Orient. La problématique du Sahara occidental en faisait partie, même si la majorité de mon travail était alors sur l'Irak. Et je savais à quel point leur situation était injuste.
Le pli étant pris, les clients se sont passés le mot.
Le troisième pays avec lequel nous avons travaillé a été le Somaliland, qui est un pays démocratique dans la Corne de l'Afrique, qui cherche sa reconnaissance comme pays indépendant. Ces pays ont été les trois premiers, dans le sens premier en plus de ce que fait Independent Diplomate. Nous avons aussi tendance à œuvrer pour les mouvements d'opposition pendant les guerres civiles. Donc, nous avons travaillé avec l'opposition démocratique syrienne, avec des groupes démocratiques au Yémen, pour soutenir leur aspiration à un État séparé du reste du pays. Nous avons aussi pris en charge plusieurs dossiers d'autodétermination de pays qui voulaient être reconnus comme des États à part entière, qui étaient exclus du concert international. Or, c'est ce système international, ce système inter-étatique, qui peut déterminer leur avenir. Et dans ce système, les entités non étatiques ne sont pas écoutées. L'exemple classique de ça, c'est le Kosovo, qui était un pays démocratique avec un gouvernement légitimement élu, mais qui n'était pas présent dans la diplomatie, même dans celle qui s'occupait de la situation au Kosovo. Ainsi, à l'ONU, le Kosovo n'avait pas de Marocains dans les discussions sur lui.
Mais quel rôle exact remplit donc Independent Diplomate pour tous ces mouvements de rébellion? Est-ce un simple lobbyiste qui pousse leur voix dans les médias et les institutions internationales? Kerdros s'en défend et au contraire préfère agir dans l'ombre.
Nous ne représentons pas nos clients. Nous pensons qu'ils sont eux-mêmes leurs meilleurs représentants. Nous pensons que c'est un peu ridicule qu'un type comme moi, habillé en costume, arrive et parle au nom d'un pays comme le Somaliland. Les représentants du Somaliland sont bien plus capables de parler des besoins de leur pays que je ne le suis. Mais nous les conseillons, nous les soutenons. Derrière eux, c'est là que nous pouvons être le plus utile. Nous leur donnons des conseils dans trois domaines majeurs. La diplomatie en tant que telle, qui est de la stratégie politique, des analyses juridiques sur l'état du droit international en fonction de la situation, et enfin, de la diplomatie publique, qui est au fond des relations publiques, comment vous présentez au public votre dossier, ce qui devient de plus en plus important.
L'exemple du Soudan du Sud, l'un des premiers et des plus gros clients du cabinet, est le plus parlant pour comprendre le travail d'Independent Diplomat.
Ils avaient des diplomates, ils avaient des représentants internationaux, ils avaient un ministre des Affaires étrangères, un leadership qui allait aux rencontres internationales. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était l'expertise juridique et diplomatique nécessaire afin de comprendre ce qui se jouait dans les négociations. Un exemple de ça, c'est que quand le Conseil de sécurité produit une résolution, celle-ci est d'une complexité extraordinaire et vous avez besoin d'un vrai expert pour pouvoir l'interpréter. Et nous avons les experts capables de les interpréter. C'est ce que les diplomates font pour leur gouvernement, expliquer ce que tel papier veut dire. C'est aussi ce que nous faisions pour le gouvernement sud-soudanais. Leurs représentants à l'international étaient très efficaces. Ils avaient des porte-parole incroyablement talentueux et éloquents pour leur cause. Et quand ceux-ci étaient bien préparés, ils pouvaient être très efficaces pour défendre l'intérêt du Soudan du Sud. Ce pays est vraiment un bon exemple de ce que nous faisons, parce que ça a été pendant un moment la priorité numéro un du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le Soudan originel, Khartoum, avait lui droit à un siège dans les négociations, car c'était un État. Mais le Soudan du Sud, qui voulait être un État, n'avait quant à lui pas de siège à la table. Ceci était fondamentalement injuste.
Comme un État le ferait pour sa propre diplomatie, Independent Diplomat se déploie alors pour ses clients dans tous les centres internationaux de pouvoir.
Nous avons effectué beaucoup de travail auprès de l'ONU parce que nous sommes plusieurs dans l'organisation à avoir travaillé au sein du Conseil de sécurité. En particulier, plusieurs d'entre nous ont servi comme délégués britanniques au Conseil de sécurité. Donc nous avons eu tendance à faire beaucoup de choses à l'ONU. Mais nous avons aussi des bureaux à Genève, à Bruxelles et à Washington, car nous voulons aussi couvrir ces centres diplomatiques où il y a beaucoup d'organes diplomatiques internationaux. Nous croyons que dans ces centres, nous pouvons parler rapidement à beaucoup de gouvernements sans avoir à établir de bureaux nationaux dans chaque pays important. Nous ne pourrions bien sûr pas soutenir l'ouverture de bureaux dans chaque pays du monde. Donc, nous essayons de couvrir le monde depuis ces centres diplomatiques multilatéraux. Et de là, nous allons à l'ONU, à l'UE, au Conseil des droits de l'homme, tout en parlant aux gouvernements qui sont membres de ces institutions.
De son poste de vigie à Independent Diplomat, Cairn Ross voit avec acuité les profonds changements en cours dans les jeux de pouvoir internationaux.
La pratique diplomatique est en train de changer, tout comme la politique internationale. Quand nous avons commencé Independent Diplomat, l'Occident était vraiment dominant dans les cercles diplomatiques. Il ne l'est clairement plus. Et de nouveaux centres, en particulier la Chine, mais aussi la Russie et d'autres, comme la Turquie, ont émergé comme de plus en plus influents en comparaison de l'Ouest. Ceci est un défi pour une organisation comme la nôtre. Il est difficile pour nous, par exemple, de parler avec la Chine. Nous n'avons pas de bureau à Pékin. Je dois dire que leurs diplomates sont très professionnels et que dès qu'on essaie dans des enceintes multilatérales de parler avec eux, ils sont très avenants.
À force d'épauler rébellions et proto-États dans tous les cénacles internationaux, Cairn Ross s'est peu à peu forgé de nouvelles convictions sur la diplomatie. Loin des grandes théories, au plus près du réel.
Les États à l'ONU, voire les États en général, n'aiment pas les entités qui prétendent pouvoir parler d'égal à égal ou qui veulent être un État. Les dindes ne votent pas à Noël ou à Thanksgiving, comme j'aime dire. Les États, en général, n'aiment guère être démembrés. Les gouvernements veulent par nature préserver leur pouvoir. Les leaders veulent préserver leur pouvoir. Donc, il y a une hostilité fondamentale pour les nouveaux États au sein du système diplomatique international. Le système diplomatique actuel est structurellement défaillant. C'est une superstructure créée pour que les États parlent à d'autres États. Mais, désolé, tous les problèmes du monde ne sont pas gérés ou engendrés par des États. Il y a beaucoup d'acteurs qui contribuent aux problèmes auxquels nous devons faire face, que ce soit dans des conflits ou la question du changement climatique. Il y a plein de gens qui sont affectés par les décisions prises par ce système interétatique, mais qui ne sont pas représentés par des États, soit parce qu'ils ne sont pas représentés par un gouvernement démocratique, soit parce que, alors même qu'ils ont un gouvernement démocratique, celui-ci ne parle pas pour eux, car ils sont en minorité. Par exemple, les leaders de la Catalogne ne pensent pas que le gouvernement espagnol parle pour eux. Or, c'est le système actuel interétatique, sans le gouvernement de Catalogne, qui va estimer qu'il y a un certain nombre de degrés avant de déterminer qui peut être reconnu comme un État indépendant. Et s'il devient indépendant, s'il déclare son indépendance, je regarde cela comme fondamentalement injuste, parce que je pense que les gens devraient avoir voix au chapitre quand on discute de problèmes qui les affectent. C'est un peu ma philosophie fondamentale qui s'applique dans toutes les formes de politique, même intérieure, où des gens se retrouvent exclus de prises de décisions qui les affectent. C'est pourquoi je me regarde moi-même comme une sorte de gentil, doux anarchiste. Les gens devraient être partie prenante de ces décisions, et ils ne le peuvent pas dans le système diplomatique actuel tel qu'il est constitué. C'est encore trop souvent le cas que des parties prenantes non étatiques soient exclues des discussions.
Kern Ross est intarissable sur les failles du système diplomatique international. Failles qui sont autant d'opportunités pour sa société.
Au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, quand nous discutons de la Palestine, de l'Irak ou de la Somalie, vous pouvez être presque sûr que les représentants des groupes politiques d'Irak, de Somalie ou d'autres endroits ne seront pas dans la salle. Et je pense que c'est fondamentalement mal, mais aussi un peu stupide. Parce que si vous voulez prendre une décision sur le Kosovo, les Balkans ou la Corne de l'Afrique, vous devriez prendre en compte l'avis des gens qui vivent sur place. Ils connaissent bien le problème, ils connaissent en réalité les possibilités de solution, si seulement vous leur demandez. C'est une des choses que j'ai apprises à Independent Diplomat. L'Occident n'a pas de solution de génie pour tous ces endroits, que ce soit la Syrie, le Yémen ou le Cachemire. Mais en général, les personnes qui y vivent, elles, savent comment trouver des solutions. Et si vous les écoutez, vous pouvez in fine avoir une meilleure diplomatie qui sera mieux informée et qui produira de meilleurs résultats. Que ce soit pour mettre fin à des conflits armés ou lutter contre le changement climatique.
Mais les critiques de Kern Ross vont beaucoup plus loin que celles que peuvent formuler les bataillons d'anciens diplomates devenus experts. Ambassadeur de pays virtuels, le directeur d'Independent Diplomat veut repenser les fondements même du système international, c'est-à-dire les États.
Je ne regarde pas les États comme le bon outil pour résoudre les problèmes du monde. Je ne pense pas que les États fassent un bon boulot pour résoudre les problèmes du monde. Je pense que sur les problèmes mondiaux auxquels nous sommes confrontés, en particulier le changement climatique, mais aussi les problèmes en matière d'inégalité, de violence transnationale, de terrorisme, les États font en réalité un piètre travail. Ceci est dû au fait qu'ils ne se préoccupent pas de facteurs non étatiques. Ce n'est pas tant que je ne crois pas à une diplomatie sans État. Bien sûr que les gouvernements doivent être présents. On doit aussi faire avec le système comme il est. Je ne peux pas réformer l'ONU à moi-même. Je ne peux pas en faire un Parlement des peuples. C'est un organe interétatique. Donc, on doit faire avec les États qui, en de nombreux aspects, restent extrêmement importants, sinon les acteurs les plus importants dans les enjeux diplomatiques actuels.
Si le système actuel n'est plus adapté au monde, quel serait le mode de gouvernance idéal ?
Ce serait un système assez décorseté. Je veux dire, si vous voulez un ordre, vous devez exclure des gens. Si vous voulez créer quelque chose qui a une structure rigide, la forme gouvernementale sera toujours votre réponse. Car vous pourrez prétendre que vous avez donné une structure au monde. Vous aurez créé une organisation construite sur des gouvernements. Mais je vous dirais que vous ne répondrez pas à la question avec ces structures. Vous devez en faire quelque chose de plus éclectique, plus hétérogène. Et inéluctablement, ce système sera plus désordonné. Et je pense profondément que nous devons accepter le fait que nous vivons dans un monde désordonné, dans lequel de multiples acteurs différents affectent nos problèmes. L'ordre peut ne pas être le facteur le plus important, finalement. Nous aspirons d'abord à trouver des solutions à nos problèmes, que ce soit des conflits, des inégalités économiques, le changement climatique. Et dans chacun de ces problèmes, il y a de nombreux acteurs concernés, dont la plupart ne sont en fait pas des États. Si vous ne les incluez pas dans la solution, vous n'aurez pas de solution.
Amusé de voir l'effet que produit sur nous sa déclaration d'amour au chaos, Cairn Ross en rajoute dans le Radical Chic et achève sa tirade par ce qui pourrait être une charte philosophique bien commode des diplomates privés.
Je suis un libertarien socialiste.
Je suis un anarchiste, vraiment. Je crois très fortement dans l'idée de démocratie réelle, qui est le fait que chacun doit être consulté sur chaque décision qui le concerne. Donc, qu'en fait, la masse prenne les décisions et que le gouvernement ne soit qu'en charge de les mettre en œuvre. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gouvernements prennent les décisions en petit comité et les imposent ensuite au commun des mortels. Ce devrait être l'opposé. C'est profondément ce que je crois. Et qu'à la fin, cela produirait de meilleurs résultats pour tout le monde. J'ai foi dans le fait que les humains prennent collectivement les bonnes décisions. L'idée sous-jacente du gouvernement moderne est que les masses sont incapables de se gouverner, que si vous laissez les gens livrés à eux-mêmes, la situation deviendrait violente, que ce serait la guerre de tous contre tous, dans une vue très hobbesienne. Je rejette fermement cette idée, parce que ce qui donne à l'élite le droit de gouverner, d'oppresser et de régenter la vie des autres, toutes les régulations, toutes les lois, c'est fondamentalement une coercition, une limitation des libertés. Et je pense que les hommes doivent être libres.
Pierre Gatineau, Philippe Vasset, Les Nouveaux Corsaires, France Culture.
Représentant privé d'État en quête de reconnaissance, Cairn Ross porte un discours très critique envers l'architecture du système international actuel, discours qui coïncide étroitement avec ses intérêts d'ambassadeur alloué.
Mais sa société, Independent Diplomat, défend également des pays et des mouvements qui s'accordent beaucoup moins bien avec ses positions très progressistes. Toujours installé dans notre lobby d'hôtel londonien, par une froide matinée d'hiver, nous tentons d'amener l'ex-diplomate à nous parler de ses contrats moins présentables.
Avant de le rencontrer, nous avons fait nos petites recherches. Depuis la guerre froide, tous les représentants d'États étrangers opérant sur le sol américain sont contraints de s'enregistrer auprès du ministère de la Justice sous peine de poursuite. Tous les agents étrangers, c'est leur nom officiel, sont regroupés dans un fichier centralisé. Sa consultation nous a appris qu'aux États-Unis, Cairn Ross travaille pour la République de Chypre du Nord. Cette république séparatiste, issue de l'intervention militaire de la Turquie au nord de l'île méditerranéenne en 1974, n'apparaît pas spontanément comme un porte-étendard de la démocratie et des droits de l'homme. Gêné aux entournures, Cairn Ross n'esquive pas.
Well, it's a good question because of course
Eh bien, c'est une bonne question, car bien sûr, la République de Chypre du Nord a été créée par une invasion illégale. Mais en revanche, notre client était un gouvernement démocratique qui était engagé dans un processus diplomatique. Les leaders étaient vus comme légitimes et étaient traités comme tels. Les gens parlaient aux leaders nord-chypriotes. Donc, c'était un acteur légitime. De ce fait, quand ils sont venus à nous pour de l'assistance diplomatique, ils étaient pour nous un client légitime à aider. Ils voulaient de l'aide pour comprendre la diplomatie, en particulier celle de l'Union européenne sur la question chypriote. La République de Chypre du Nord est un tout petit pays, et la question est très complexe. Elle ne faisait jusqu'à présent que se reposer sur la Turquie pour ses compétences diplomatiques. Mais ils ont voulu une autre approche, moins partiale. Et c'est quelque chose qu'on peut donner à nos clients. Nous pouvons leur dire ce qu'il se passe vraiment dans le monde d'une manière impartiale. Nous ne servons pas d'autres intérêts. Nous pouvons parler de manière confidentielle à d'autres gouvernements entre professionnels. L'une des choses intéressantes avec la diplomatie, c'est que quand vous demandez à des gouvernements ce qu'ils pensent, ils vont parfois ne pas vouloir vous répondre en public à cause des jeux ridicules de diplomatie publique et de la stupidité de la manière dont la diplomatie publique est gérée. Mais en privé, à partir du moment où vous vous engagez à maintenir l'information confidentielle, les gouvernements vont vous dire, même à des ONG, ce qu'ils pensent vraiment. Donc, nous sommes capables de récupérer ce type d'information et de le transmettre à nos clients. Ils n'ont pas accès à ce type d'information parce que, quand eux vont voir les gouvernements, ces derniers ne vont pas leur dire ce qu'ils pensent vraiment, mais ce que ce client veut entendre. Donc, ils vont leur dire ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils pensent. Ça, c'est aussi un vrai avantage que nous pouvons offrir à nos clients.
Si l'on résume, Kernros reconnaît bien que la République de Chypre du Nord est issue d'un coup de force de l'armée turque, donc assez éloignée des idéaux qu'il professe. Mais il maintient néanmoins que l'action de sa société Independent Diplomat aurait permis de distendre les liens entre ce régime et la Turquie. La rhétorique diplomatique, aussi brillante soit-elle, reste parfois de la rhétorique. Ce qui est sûr, c'est qu'Independent Diplomat est l'une des très rares sociétés au monde à accepter de se mettre au service de mouvements séparatistes. L'un des meilleurs clients du cabinet est la province espagnole de Catalogne. Selon les contrats d'Independent Diplomat que nous avons pu consulter, la société a travaillé dès 2013 pour Barcelone, plus précisément pour l'antenne américaine non déclarée de la Catalogne, sise au 26e étage du mythique One Rockefeller Plaza à New York. Le gouvernement de la province préparait alors un référendum sur l'autodétermination qui s'est finalement tenu en 2014 et espérait obtenir du soutien à l'étranger, en particulier à Washington. Independent Diplomat a continué plusieurs années à épauler les indépendantistes catalans dans leur démarche. Par conviction, sans doute, mais pas seulement. La Catalogne a versé jusqu'à 46 000 dollars par mois pour rémunérer l'équipe de diplomates privés de Kernros.
Si Kernros travaille pour les pays qui n'en sont pas encore, il représente également, à l'autre bout du spectre, ceux qui n'en sont bientôt plus. Independent Diplomat travaille ainsi depuis 2016 pour la République des îles Marshall. Ce petit archipel est à la tête d'un groupement, baptisé la High Ambition Coalition, qui rassemble toutes les îles menacées par la montée des eaux due au réchauffement climatique et qui cherche à retarder l'inéluctable en alertant la communauté internationale, mais également en levant des fonds.
Travaillant pour des entités en devenir, Independent Diplomat opère en permanence sur le fil et est toujours à la merci d'une volte-face d'un de ses clients. Le cabinet a connu, en ce domaine, plusieurs déconvenues.
Nous avons ce que nous appelons des critères éthiques, qui disent que nous ne travaillons que pour ceux qui sont engagés pour la démocratie, la protection des droits de l'homme et le respect du droit international, en particulier le droit international en matière de conflit. Mais ça n'exclut pas ceux qui se défendent eux-mêmes contre les agressions. Et nous sommes très rigoureux pour appliquer ces critères à nos clients. Nous avons parfois annulé des contrats avec certains clients quand ils ont, selon notre point de vue, rompu leur engagement envers ces critères. Par exemple, nous avons beaucoup aidé le Soudan du Sud avant son indépendance. Le Soudan du Sud était alors le sujet de cet énorme processus diplomatique afin de déterminer si le pays devait être indépendant ou pas. Et à l'époque, il n'avait absolument aucune capacité diplomatique. Par exemple, il n'avait aucune représentation à l'ONU, et pourtant, c'était l'ONU qui devait décider de leur avenir. Donc, nous les avons aidés pendant cette période. Mais le Soudan du Sud a sombré dans la violence entre le gouvernement et l'opposition. Et aussitôt que c'est arrivé, dans les jours qui ont suivi, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères sud-soudanais pour lui dire que nous ne pouvions plus, en conscience, travailler pour eux parce que le gouvernement était coupable d'atrocités. Mais en général, nous essayons d'aider ceux qui sont légitimes à parler pour le peuple qu'ils proclament représenter et qui usent de méthodes légitimes pour poursuivre cet intérêt.
En même temps que le Soudan du Sud, Karen Ross aidait alors l'opposition birmane.
Il y avait ce processus démocratique en Birmanie, et la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, est sortie des élections avec un mandat pour gouverner le pays. Ils étaient alors en exil. Nous les avons aidés à former une coalition avec plusieurs autres groupes, notamment les groupes ethniques minoritaires, afin de former une plateforme pour la démocratie en Birmanie, au Myanmar. Donc dans un sens, ce contrat n'était pas si inédit pour nous. Ils étaient un groupe démocratique légitime, qui avait besoin d'aide et qui avait des intérêts diplomatiques autour de la Birmanie. Et nous pouvions les aider avec ça.
Sauf qu'au bout d'un moment, la LND, emmenée par la charismatique Aung San Suu Kyi, a préféré passer un accord avec la junte birmane pour accéder au pouvoir. Et une fois aux commandes, l'égérie de l'opposition n'a pas levé le petit doigt pour stopper l'épuration ethnique menée par ses nouveaux alliés militaires contre certaines minorités, notamment les Rohingyas.
Ces expériences avec le Soudan du Sud et l'opposition birmane ont échaudé l'équipe d'Independent Diplomat, qui regarde désormais à deux fois avant de signer un client.
Parfois nous les approchons directement, parfois ils viennent à nous. Une fois, j'ai eu une lettre directement du CMA, de coordination des mouvements de l'Azawad, qui est le représentant de la nation Touareg au nord du Mali. Ils nous ont écrit à notre bureau de New York, nous demandant de l'aide. Nous sommes parfois introduits auprès d'eux par une partie tierce, un autre gouvernement, les envoyés des Nations Unies qui pensent qu'un groupe aurait un avantage à bénéficier de notre assistance. Une fois que nous sommes introduits auprès d'eux et que nous commençons à discuter, ce dialogue peut être très long avant de se lancer dans une aide réelle parce qu'ils doivent nous connaître et nous faire confiance en amont. Parce que les informations et les stratégies diplomatiques sont des choses très intimes pour ces groupes. Donc ils doivent vraiment nous faire confiance si nous voulons être utiles pour eux. De même, nous avons de notre côté besoin de tester ces groupes au regard de nos critères d'acceptation. Nous devons aussi mieux les connaître, en apprendre plus sur eux, visiter les pays d'où ils viennent, pour s'assurer que ce qu'ils disent sur leur légitimité est vrai. Par exemple, avant que nous aidions le gouvernement du Somaliland, qui est contrôlé par un seul parti politique, je suis allé au Somaliland vérifier et parler à tous les autres partis politiques pour voir s'ils partageaient le point de vue du gouvernement sur sa politique étrangère, et plus particulièrement sur la question de l'indépendance et de la reconnaissance internationale. Et j'ai vu que oui, j'ai été rassuré sur le fait que le gouvernement était légitime, et que, de ce fait, il était légitime qu'Independent Diplomat s'y implique.
Les questions de légitimité ne sont pas les seules auxquelles se heurtent les diplomates privés. Les questions financières peuvent s'avérer tout aussi problématiques. Les pays virtuels n'ayant par essence pas de ressources, comment s'assurer que ceux qui les financent n'ont pas un agenda caché ?
Entre janvier 2012 et octobre 2012, Independent Diplomat a œuvré pour le compte de l'opposition géorgienne, emmenée et financée par le milliardaire Bidzina Ivanishvili. Karen Ross l'a notamment aidé à développer tout un réseau de soutien en Occident, surfant sur la déception suscitée par le président géorgien alors en place, Mikhail Saakashvili. Problème. Financier de l'opposition géorgienne, Ivanishvili est aussi et surtout un oligarque qui a fait fortune en rachetant des pans entiers de l'économie locale en association avec des Russes. Pas exactement un parangon de bonne gouvernance, donc.
Même situation au Yémen. Independent Diplomat épaule le Conseil de Transition du Sud, l'organe politique qui rassemble les tribus d'Aden et de plusieurs gouvernorats du sud du pays, et plaide ouvertement pour une partition du Yémen. De création récente, ce Conseil de Transition est appuyé financièrement par les Émirats Arabes Unis, l'un des protagonistes du conflit. La proximité entre le Conseil de Transition du Sud et Abu Dhabi est telle que certains considèrent qu'il s'agit ni plus ni moins d'une marionnette des Émirats.
You know a lot about our work. You've done your research.
Vous en connaissez beaucoup sur notre boulot. Vous avez fait vos recherches. Je ne m'attendais pas à cette question.
Well, I disagree.
Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas le CTS comme des marionnettes. Il représente les intérêts légitimes ressentis par un grand nombre de gens dans le sud du Yémen. Et nous les voyons, et ils sont vus, comme les représentants légitimes de cette tendance. Nous avons analysé et regardé la situation avec beaucoup de précautions, précisément à cause de la préoccupation que vous avez soulevée. Certains disent que ce sont des marionnettes à la solde des Émirats. Ils sont financés. Financés, certainement, oui. Mais financés ne veut pas forcément dire que votre voix est illégitime. C'est un arbitrage prudent qui doit être fait. Nous avons parlé avec beaucoup d'ONG et de gouvernements qui connaissent bien le Yémen pour faire ce jugement. Si nous avions senti que le Conseil de transition du Sud yéménite avait été une pure marionnette des Émirats et rien d'autre, et n'exprimait pas un point de vue légitime sur le futur du Sud du Yémen, désiré par beaucoup de gens, nous ne les aurions pas aidés. Le Front Polisario est financé par l'Algérie. Cela veut-il dire que ce sont des marionnettes de l'Algérie, comme le proclame le Maroc ? Non, pas du tout. Ils parlent légitimement au nom de gens qui veulent un référendum pour l'autodétermination du Sahara occidental, ce qui est une volonté portée par une vaste portion de la population du Sahara occidental, et encore plus par les réfugiés résidant en Algérie. Et d'ailleurs, la volonté d'avoir un référendum sur l'autodétermination du Sahara occidental a été acceptée par toute la communauté internationale, dont le Maroc. De ce fait, ce point de vue, qu'il doit y avoir un référendum d'autodétermination, est légitime. Et ce, même si le Front Polisario reçoit des fonds de l'Algérie pour survivre. Je ne pense d'ailleurs pas qu'ils en reçoivent beaucoup. Ils vivent dans des tentes au milieu du désert.
Dernier écueil, et non des moindres, le terrorisme. Certains des clients de Cairnross sont des mouvements en lutte et peuvent être considérés comme terroristes par certaines capitales. C'est le cas de la coordination des mouvements de l'Azawad, le groupement Touareg évoqué un peu plus tôt par Cairnross, et c'est aussi le cas des groupes opposés au régime syrien de Bachar al-Assad.
Well, not in all cases.
Ça n'arrive pas dans tous les cas, mais je suis d'accord, ça fait partie des arbitrages qu'on doit faire. Je ne dis pas que nous faisons toujours les bons. Vous savez, nous traitons avec des parties prenantes qui sont souvent en guerre. Par exemple, nous aidons la coalition syrienne depuis longtemps, qui est le support de ceux qui veulent une démocratie en Syrie. La coalition était regardée par des États, beaucoup d'États, comme la voix légitime de l'opposition au régime de Bachar al-Assad. Et pourtant, cette coalition a inclus certains groupes dont certains étaient vus et listés comme des groupes terroristes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut-il dire qu'on ne peut pas aider toute la coalition ? Nous, nous avons décidé que nous le ferons quand même. Mais ça peut être un problème. Travailler avec des soi-disant organisations terroristes peut devenir vraiment difficile. Je n'admire pas le terrorisme. Je ne soutiens pas les méthodes terroristes. Et je crois qu'en de nombreux cas, ils représentent un point de vue politique qui compte dans une situation donnée et qui ne devrait pas être passé sous silence. Mais si vous refusez de leur parler, je n'ai pas de solution miracle. Nous l'avons appris à nos dépens en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, ce dont je suis sûr, Jonathan Powell vous a parlé. Mais Independent Diplomat, je veux être clair, ne soutient pas les groupes terroristes. Nous ne sommes légalement pas autorisés à aider des groupes terroristes. Par définition, les groupes terroristes ne sont pas démocratiquement légitimes. Les groupes que nous aidons doivent avoir une légitimité démocratique de quelque façon qu'ils la trouvent. Cela ne veut pas forcément dire des élections libres et justes, parce que ce n'est pas forcément possible, comme au Yémen ou en Syrie, mais il doit y avoir une présomption de crédibilité quand ces groupes prétendent incarner une opinion largement répandue.
Conseillant les proto-États, Independent Diplomat a créé un nouveau marché de niche, qui aujourd'hui attire de plus en plus d'anciens diplomates chevronnés aux grandes dames de Ross.
Ce qui est très étrange dans ce monde de la diplomatie, c'est que c'est finalement le même petit groupe de gens qui tournent autour des mêmes conflits. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Je pense que cela devrait impliquer un vivier beaucoup plus large de gens. Mais dans un certain sens, c'est bien aussi. Car Martin Griffiths, par exemple, est très expérimenté en matière de diplomatie internationale et de processus de paix.
Vétéran du Foreign Office, Martin Griffiths est aujourd'hui l'envoyé de l'ONU pour tenter de négocier une paix au Yémen. C'est aussi l'un des premiers à avoir monté son petit cabinet de diplomatie privée. Pourquoi tant de diplomates de Sa Gracieuse Majesté se lancent-ils sur ce créneau ?
Cela aide que l'anglais soit aujourd'hui la lingua franca de la diplomatie. Ça aide. Mais je pense que c'est d'abord une conséquence post-coloniale. Je pense que c'est l'état d'esprit post-impérial. Maintenant que nous n'envahissons plus de pays et ne les gouvernons plus directement à la place, nous leur disons comment se gouverner eux-mêmes avec les droits de l'homme, le droit international et le reste. Il y a une sorte de confiance en soi. Les Britanniques, mais aussi d'autres Occidentaux, n'ont pas un droit particulier à faire ce job, mais ils sont bons pour faire ce travail. Et ça n'aide pas que beaucoup de gens disent que les diplomates britanniques soient comme ça. Les diplomates britanniques sont très auto-centrés, parce qu'ils sont assez stupides pour croire aux flatteries qui leur sont adressées par des pays qui attendent quelque chose d'eux. Il y a plein de non-britanniques actifs dans ce secteur. Mais en tout cas, ce sont surtout des diplomates occidentaux qui se lancent. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il devrait y avoir notre type d'organisation, mais qui viennent d'origines plus diversifiées. Le pourquoi est évident. Nous avons besoin de voix plus diverses dans la diplomatie. Ce ne devrait plus être un discours dominé par les Occidentaux. Je pense que ça vient du fait que la plupart de ces organisations ont émergé à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, au moment où l'Ouest avait un vrai ascendant dans la marche du monde. Vous aviez la guerre au Kosovo, l'intervention en Sierra Leone, les victoires américaines en Irak. Et je pense que ça donnait vraiment l'impression que l'Ouest dirigeait le monde. Je pense que nos organisations sont nées à ce moment-là et qu'elles faisaient partie de cette, je ne dirais pas supériorité, mais vision post-coloniale, qui se disait que l'Occident était utile dans ces pays. Et cette vision est souvent problématique, car elle offre l'image de ces diplomates vieux et blancs descendant vers des conflits impliquant des personnes à la peau plus foncée et leur donnant la réponse à leurs problèmes. Je m'oppose vraiment, je suis très hostile à ce modèle. Parce que je pense très profondément que les gens qui vivent le conflit, qui vivent dans le pays, doivent être ceux qui déterminent les résultats de la diplomatie. Ils devraient être ceux en première ligne dans le jeu diplomatique. Leur voix ne devrait pas seulement être entendue, mais elle devrait être les plus importantes, parce qu'ils connaissent plus leurs conflits au Soudan, Somalie ou Syrie que n'importe qui d'autre. Si c'était notre pays en conflit, nous demanderions la même chose.
Ce complexe de supériorité que dénonce Karen Ross se retrouve aussi, pour lui, dans l'inutile complexification et opacité des procédures diplomatiques internationales.
Eh bien, je pense que je suis plutôt enclin à vouloir simplifier le travail diplomatique et à le rendre plus transparent. Je ne pense pas que la diplomatie doive être aussi professionnalisée qu'elle l'est aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faille toute cette expertise, cette expérience, dans le simple but d'être un diplomate efficace. Je ne crois pas à ce modèle très élevé culturellement de ces diplomates grandioses avec des costumes hors de prix, en limousine, avec leurs petits drapeaux drapeau qui flotte et leur expertise soi-disant unique sur comment diriger le monde. Je rejette vraiment fermement cette vision de la diplomatie. Je pense vraiment que c'est un modèle idiot, car je pense qu'un grand nombre de personnes comprennent intuitivement comment marche la diplomatie. Un grand nombre de gens aujourd'hui savent comment vont les affaires du monde, et ils ont de l'intelligence et de l'expertise à offrir. Et si la diplomatie était plus ouverte, plus transparente, les preneurs de décisions bénéficieraient de cette expertise supplémentaire. De par mon expérience, la plupart du travail diplomatique est gardé secret, alors qu'il ne devrait pas. Quand je travaillais pour le gouvernement britannique, l'immense majorité des informations échangées entre diplomates étaient d'accès restreint et n'étaient pas publiques. Alors qu'à mon sens, l'immense majorité d'entre elles pouvaient être publiques. Après tout, les diplomates du Foreign Office travaillent au nom du peuple britannique. Celui-ci devrait avoir le droit de savoir ce qui se passe, parce que l'autre problème que le manque de transparence crée, c'est le manque de compte à rendre. La diplomatie est une pratique amorale. C'est un endroit où on pense que les États peuvent faire des choses normalement interdites aux individus, comme tuer des gens ou déclencher des guerres. Cela a créé un domaine où la morale humaine est absente, et ce, même si les gouvernements vous disent le contraire. C'est vraiment un petit jeu sale. Et je pense que ceci est permis du fait du manque de compte à rendre, et ce aussi dans les gouvernements démocratiques. Dans mon expérience, et l'expérience de l'attitude britannique pendant la guerre en Irak, il n'y a jamais eu de compte rendu du gouvernement sur les mensonges qui ont précédé le lancement de la guerre en Irak. Il y a eu des enquêtes publiques, mais ce n'est pas suffisant.
Pour illustrer son propos sur l'opacité et la complexité onusienne, Cairn Ross cite alors un autre de ses anciens clients, le plus connu des États sans État, la Palestine.
Je ne peux pas vous en parler longuement, parce que nous avons travaillé brièvement pour la mission diplomatique de l'OLP à l'ONU. Nous n'avons pas fait un gros travail pour eux, pas directement pour le Fatah. Nous avons juste aidé leur mission à New York à faire pour eux de la diplomatie publique, des relations publiques. Mais la mission de l'OLP à New York, qui est le représentant de tous les Palestiniens dans tous les organes de l'ONU, est un bon exemple d'un des problèmes majeurs de l'ONU et plus globalement de la diplomatie. C'est une vraie mission compétente, dotée de diplomates chevronnés. L'OLP a vraiment de bons professionnels. Mais ils sont débordés par le nombre de processus onusiens qu'ils doivent suivre en même temps. Le conflit Israël-Palestine apparaît dans tant de sujets et de commissions de l'ONU. Et c'est beaucoup trop pour de petites missions diplomatiques de suivre tous ces processus à la fois pour s'assurer que leurs intérêts soient protégés. C'est vraiment un problème très commun. À plein d'égards, la diplomatie est devenue trop compliquée pour la plupart des États. Ça demande trop d'efforts. Et même pour de gros États, la plupart de leurs diplomates se plaignent de ne faire que d'aller de réunion en réunion en réunion tout le temps. Il y a toujours un sommet, il y a toujours une conférence. Et il leur faut préparer des points pour chacune de ces conférences, pour leurs ministres. Et ils deviennent pilotés par le process lui-même, et non plus par le fait de trouver une solution. Ils n'ont plus le temps de penser longuement aux problèmes politiques profonds et comment leur travail pourrait permettre de résoudre des conflits.
Face à toutes ces lourdeurs, l'envie est grande de tout arrêter. Mais Cairn Ross n'est pas prêt de raccrocher les gants. Il réfléchit déjà à se trouver de nouveaux marchés.
My interests have spread beyond pure diplomacy in recent years, and I have become very interested in democratic transformation. I don't believe in the model of.
Mon intérêt aujourd'hui se porte sur des questions qui dépassent la diplomatie. Je suis de plus en plus intéressé par les questions de transition démocratique. Je ne crois pas dans les modèles de la démocratie représentative que nous avons aujourd'hui. Je suis aussi particulièrement concerné par la montée des autocraties et des gouvernements autocratiques très sophistiqués qu'on peut voir en Chine, en Russie et dans d'autres endroits. Je voudrais aider les mouvements démocratiques dans ces pays et d'autres contrées. J'aimerais aider les manifestants de Hong Kong, ceux en Irak et au Liban, au Chili. Aujourd'hui, je ne peux pas les aider, je n'ai pas les outils pour. Ce que nous faisons à Independence Diplomat n'est pas adéquat pour ce type de situation. Mais j'aimerais tant pouvoir les aider, parce que ces manifestants demandent plus de démocratie et une voix dans leur propre pays. Ils ont presque les mêmes demandes, ils font face tous aux mêmes problèmes, pas exactement les mêmes. Chaque situation a ses particularités, je ne veux pas trop généraliser. Mais ils font tous face à une répression féroce de leur gouvernement, des emprisonnements, parfois des violences gouvernementales très dures, comme on a pu le voir en Irak. Parfois aussi de la propagande contre ce type de choses. Et je suis sûr que certaines techniques et idées peuvent être partagées entre ces mouvements. Et l'une des choses les plus excitantes en ce moment, c'est que ces idées sont en train d'être partagées, les techniques et les tactiques aussi. Parce qu'elles peuvent être diffusées par les infos, pas que les réseaux sociaux, mais aussi par les journalistes. Il y a beaucoup de couverture médiatique sur ces mouvements sans leader dans ces pays, et beaucoup d'analyses sur ce qui se passe là-bas. Toutes ces analyses sont lues entre ces pays, des chambres étudiantes de Hong Kong jusque dans les rues en Irak.
C'était Kern Ross, l'ambassadeur des capitales qui n'existent pas encore. Prise de son Fabien Gosset, doublage Antoine Beauchamp, réalisation Rafik Zénine. Les nouveaux corsaires par Philippe Vasset et Pierre Gatineau, une série que vous pouvez réécouter et même podcaster sur le site de France Culture.